de la vie et de la terre.
Enjeux planétaires contemporains, terminale spécialité, de la plante sauvage à la plante domestiquée. Chapitre 2, la plante productrice de matière organique. Introduction. La plante se développe harmonieusement grâce à une bonne nutrition hydrique et minérale, une optimisation du placement de ses feuilles pour mieux capter les rayons solaires pour la photosynthèse et une croissance contrôlée. La photosynthèse est centrale car elle constitue le seul apport de carbone pour élaborer la matière organique végétale. Elle est donc à l'origine de toutes les molécules qui permettent à la plante de se développer, de se défendre et de se reproduire. Problème. Comment la matière organique est-elle produite et quel est son devenir ? Grand 1. Photosynthèse, mécanisme de production de matière organique. Grand A, les organes chlorophylliens. Rappel. Qu'avez-vous vu en premier enseignement scientifique et en seconde, à savoir remobiliser pour ce cours ? Les producteurs primaires sont au sens large les végétaux chlorophylliens. Ces producteurs primaires fabriquent leur matière organique à partir de carbone minéral, comme le CO2 atmosphérique, grâce à une source de lumière. On dit qu'ils sont autotrophes pour le carbone. D'ailleurs, on dit même qu'ils sont photo-autotrophes. Le carbone oxydé, absorbé, est alors réduit sous la forme d'une molécule organique, le glucose. Formule à savoir par cœur, C6H12O6, grâce à l'énergie lumineuse et à l'absorption d'eau. Il réalise une photosynthèse dont le bilan global peut s'écrire de la façon suivante. 6 CO2 plus 6 H2O, grâce au chloroplaste qui perçoit l'énergie lumineuse, donne C6H12O6 plus 6 O2. Les producteurs primaires sont à l'origine de toute la matière organique consommée au sein de l'écosystème. Ils représentent donc le premier maillon au niveau trophique de l'écosystème. Les feuilles sont les organes spécialisés dans la photosynthèse. Elles peuvent à la fois optimiser les échanges gazeux, mais aussi la captation des photons nécessaires à l'activation de la première étape de la photosynthèse. Ce sont les cellules chlorophylliennes des parenchymes palissadiques et lacuneux qui sont spécialisées plus précisément dans ce mécanisme, car chargées de chloroplastes. Le chloroplaste est donc l'organite clé spécialisé dans la photosynthèse. Il est capable de stocker le glucose synthétisé sous forme de grains d'amidon. C'est un organite de couleur verte. Il est organisé en systèmes membranaires empilés les uns sur les autres, que l'on nomme les thylakoïdes. Et ce sont ces thylakoïdes qui sont colorés et possèdent les pigments photosynthétiques capables de capter les rayons solaires. Autre rappel vu en premier enseignement scientifique. Rappelez-vous, dans le chloroplaste, les pigments photosynthétiques sont enchâssés dans la membrane des thylakoïdes. Ces pigments sont dissociables par chromatographie. Quand on observe une solution de pigments photosynthétiques et les longueurs d'onde de la lumière qui sont retenues par cette dernière, on parle de spectre d'absorption. Et on se rend compte que l'intensité photosynthétique ou activité si vous préférez, correspond parfaitement à ce spectre d'absorption. Les pigments photosynthétiques permettent donc l'absorption de longueurs d'onde dans le rouge et dans le bleu. Donc attention, document 1 chloroplaste, il s'agit de bien connaître toutes les légendes afférentes au chloroplaste et de savoir le redessiner. Grand A. Le mécanisme de la photosynthèse. Et tout d'abord, petit 1, la phase photochimique ou photolyse de l'eau. Quelle argumentation avons-nous ? En 1937, Robert Hill montra que des chloroplastes isolés exposés à la lumière étaient capables de produire du dioxygène en absence de CO2. Cette libération de dioxygène activée par la lumière et, en l'absence de CO2, est appelée réaction de Hill en son honneur. Elle n'est possible que si les chloroplastes sont éclairés et s'ils disposent aussi d'un accepteur d'électrons artificiels. La photosynthèse n'est donc pas une simple fusion de l'eau et du dioxyde de carbone, mais plutôt une succession de réactions d'oxydoréduction dont le démarrage est initié par la lumière. Une preuve plus convaincante du fait que le dioxygène libéré par la photosynthèse dérive de l'eau vit le jour en 1941 quand Samuel Ruben et Martin Kamen utilisèrent un isotope de l'oxygène 18 pour suivre cet oxygène de l'eau jusqu'au dioxygène libéré. Ainsi, dans l'équation qu'on obtient, on obtient CO2 plus 2H2O avec l'isotope 18 donne CH2O, c'est-à-dire une molécule organique, plus H2O plus du dioxygène avec l'isotope 18. L'eau est donc un donneur d'électrons dont la réaction appelée photolyse de l'eau est activée par des pigments chlorophylliens excités par la lumière. Ainsi on a 2H2O donne 4H+, plus 4 électrons, plus du dioxygène. La place centrale des thylakoïdes provient de la présence des pigments photosynthétiques, dont la chlorophylle, dans leurs membranes. Leur rôle est d'accepter l'énergie lumineuse nécessaire à la réduction du dioxyde de carbone en molécules organiques carbonées. Ces pigments n'entrent en action qu'à une certaine longueur d'onde très particulière de la lumière, c'est-à-dire dans le bleu à 430 nanomètres et dans le rouge à 660 nanomètres. Les H+ se concentrent dans la lumière du thylakoïde, puis leur libération permet la synthèse d'énergie sous forme d'ATP, et les électrons sont acceptés sur un transporteur d'électrons. C'est l'ensemble de ces réactions qui est appelé phase photochimique de la photosynthèse. Si on prend en compte l'évapotranspiration au niveau des feuilles, pour faire monter la sève brute vers les feuilles, alors dans ce cas-là, l'équation bilan de la photosynthèse devient alors 6CO2 plus 12H2O donne C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, et tout ceci grâce à l'énergie lumineuse captée par le chloroplaste. Petit 2, la phase non photochimique. La phase non photochimique de la photosynthèse se déroule dans le stromate du chloroplaste. Elle consiste en l'assimilation du CO2 grâce à un cycle mis en évidence par Melvin Calvin et ses collaborateurs, d'où son nom, cycle de Calvin. Les sucres sont synthétisés à partir du dioxyde de carbone et de l'hydrogène, apportés par le transporteur ou accepteur d'électrons. Ce processus nécessite aussi de l'énergie ou ATP. À remarquer que ce transporteur et cet ATP proviennent de la phase photochimique. L'enzyme clé de ce cycle est la rubisco, qui permet la fixation de 3 carbones par cycle, issus du CO2 absorbé. Cela permet d'obtenir un sucre à 3 carbones, ou triose. Il faut donc faire tourner 2 fois le cycle pour obtenir un glucose, qui est un sucre à 6 carbones. Comme cette étape ne nécessite pas directement la lumière, mais les produits de la phase photochimique, alors on l'appelle la phase non photochimique. Grand B, distinction des deux phases et précision du cycle de Calvin. Juste à noter que dans ce grand B, il est important de connaître le schéma bilan simplifié de la photosynthèse. À la fois les détails qui se réalisent au niveau du thylakoïde dans la phase photochimique, que les détails qui se passent au niveau de la phase sombre, c'est-à-dire de la phase non photochimique au niveau du stroma. Et puis l'obtention finalement d'un sucre qui est le triose et qui a besoin de tourner 2 fois pour obtenir du glucose. Grand 2, le devenir des produits de la photosynthèse. Grand A, l'utilisation des composés glucidiques de la photosynthèse dans la cellule chlorophyllienne. À l'issue de la photosynthèse, au sein du chloroplaste, des molécules de triose-phosphate, sucre en C3, sont formées. Selon les besoins, celles-ci vont servir soit au stockage, soit à diverses réactions cellulaires. À l'intérieur même du chloroplaste, les composés glucidiques peuvent servir à la synthèse et au stockage d'amidon si la cellule dispose d'assez d'énergie. Ce stockage sous forme d'amidon dans le chloroplaste est temporaire. Une grande partie des trioses exportées hors du chloroplaste dans le cytoplasme de la cellule chlorophyllienne sert à l'obtention du fructose et du glucose, sucre à l'origine du saccharose. Glucose et fructose permettent de fournir l'énergie nécessaire à la vie cellulaire. Cette énergie est obtenue, comme chez les organismes hétérotrophes, par dégradation de ces molécules glucidiques, grâce notamment à la respiration cellulaire. Une autre partie sert de point de départ à l'ensemble des biosynthèses cellulaires qui nécessitent des chaînes carbonées. En effet, le carbone organique obtenu par photosynthèse est à la base de toutes les molécules biologiques, que ce soit les glucides, les acides aminés et protéines, lipides, nucléotides et acides nucléiques. Grand B, le devenir du saccharose dans la plante. L'excédent de saccharose formé est exporté hors de la cellule chlorophyllienne et est mis en circulation dans la sève élaborée qui le transporte vers l'ensemble du végétal, notamment tout d'abord pour stocker et effectuer des réserves. Les graines, les fruits, les organes de réserve, tubercules, bulbes, rhizomes, où le plus souvent le sucre est soit stocké sous forme d'amidon dans des amyloplastes, soit maintenu sous forme de saccharose, comme par exemple dans les fruits, les racines. Parfois dans les graines, les sucres sont transformés en lipides. On parle d'oléagineux. L'autre possibilité de devenir du saccharose dans la plante, c'est pour effectuer la respiration cellulaire dans toutes les parties non chlorophylliennes du végétal. Ces dernières ont un comportement alors hétérotrophe, à l'échelle cellulaire, nécessitant un apport de matière organique pour survivre. Et donc la respiration cellulaire s'effectue, exactement comme chez les animaux, avec l'utilisation de sucres, qui vont permettre la fabrication d'énergie chimique, sous forme d'ATP. Attention à un lien éventuel avec le chapitre de l'origine de l'ATP. Autre possibilité de l'utilisation du saccharose pour alimenter les zones en croissance de la plante. Donc effectivement, le saccharose peut également servir à la synthèse des parois cellulosiques et du bois. La cellulose, en fait, est un sucre issu de la photosynthèse. De même, la lignine qui imprègne les parois du xylème et du bois correspond à un composé dérivé d'un acide aminé, la phénylalanine, et ce, grâce à une cascade enzymatique. Cette lignine participe à la rigidité des plantes. Rappelez-vous, la paroi est constituée de cellulose, hémicellulose et pectine essentiellement. Cellulose, hémicellulose et pectine tirent leur origine aussi de la photosynthèse. Les constituants donc de la paroi sont fabriqués par l'export de sucre de la photosynthèse. Et par ailleurs, si c'est imprégné de lignine en plus, eh bien cette lignine est aussi un dérivé de la photosynthèse. Le saccharose peut être aussi exporté pour élaborer des substances toxiques ou répulsives permettant de lutter efficacement contre les agresseurs. Prenons comme premier exemple celui des acacias et des coudous. Les acacias ont mis en place de longues épines. C'est une adaptation morphologique pour éviter qu'ils ne soient broutés par les herbivores. Malgré cela, certaines antilopes viennent quand même dévorer leurs feuilles et leurs jeunes pousses. Dès qu'elles sont broutées, ces jeunes feuilles envoient un signal et des tanins sont produits, rendant plus amères les feuilles et les autres feuilles restantes. C'est donc une adaptation métabolique de la cellule. Ce qui est formidable au niveau de ce coudou et de cette affaire d'acacia, c'est que les acacias sont capables aussi de prévenir leurs voisins grâce à une diffusion dans le sol, et notamment par les mycorhizes, pour que les autres arbres produisent aussi des feuilles riches en tanins. Résultat, les feuilles seront amères non seulement chez l'individu, mais chez le groupe d'individus d'acacia. Et les antilopes n'auront plus qu'à aller voir ailleurs s'il n'y a pas des acacias un peu plus accueillants. Le deuxième exemple que je peux citer, c'est la lavande, la sauge, en fait toutes ces plantes qui ont une forte odeur, comme la menthe. Ces plantes produisent des huiles essentielles qui sont antibactériennes. Troisième exemple que je peux citer, des molécules extrêmement toxiques et mortelles, comme par exemple de la digitaline qui est produite par la digitale, donc qui est une magnifique plante à clochette pourpre des montagnes, ou des alcaloïdes qui sont produits tels que des alcaloïdes produits par le datura qui est appelé l'herbe à diable, qui est hyper toxique et que l'on retrouve parfois lorsque du datura pousse dans les champs et que c'est mélangé à la moisson. Donc ça provoque des intoxications assez graves. Le saccharose peut être aussi exporté, non plus cette fois-ci pour jouer le rôle de répulsif, mais au contraire d'attracteur, de pollinisateur. En effet, la fleur, ou plus rarement la tige, possède souvent des nectaires, qui est une glande sécrétrice d'un liquide riche en saccharose. Pour attirer avec plus d'efficacité les pollinisateurs, beaucoup de plantes utilisent des substances volatiles puissantes, qui sont des combinaisons de dizaines de milliers de métabolites, et les fragrances qui en résultent, de petites molécules organiques qui s'évaporent facilement. Mais ce n'est pas le seul atout. Elles peuvent aussi produire des pétales aux couleurs vives pour attirer les pollinisateurs. Par exemple, les abeilles ont une vision dans l'ultraviolet et certains pétales dessinent de vrais motifs qui sont des pistes d'atterrissage pour ces insectes. Ces couleurs peuvent être le fait d'anthocyanes stockés dans les vacuoles des cellules, des sépales ou des pétales de la fleur. On peut avoir aussi du saccharose qui est exporté pour attirer des disséminateurs ou pour disperser tout simplement les graines ou les fruits charnus. En plus de leurs réserves nutritives, les fruits peuvent posséder des couleurs très vives provenant de pigments comme les caroténoïdes contenus dans des chromoplastes. Conclusion. Les plantes sont capables d'utiliser des éléments inorganiques pour synthétiser leurs propres constituants organiques ou molécules carbonées, CHON. Elles sont en général phototrophes ou photoautotrophes, c'est-à-dire capables d'utiliser l'énergie lumineuse et de convertir cette énergie en étape chimique par oxydoréduction grâce à leur chloroplaste. Les produits de cette photosynthèse sont soit utilisés directement par la plante, c'est le cas du métabolisme par exemple, de la synthèse des constituants de la paroi, de la synthèse de molécules de défense, etc. Soit transportés et stockés dans des organes spécialisés de réserve pour stocker le saccharose ou l'amidon, etc. Sur le